qu'est-ce que font les constitutionnalistes? On ne les entend pas. C'est une attaque, c'est très gentil, une attaque contre notre corporation à elle seule. Et j'ai dit, mais non, on a écrit, on a publié des billets dans le blog, des news politicum, c'était vrai d'ailleurs, mais ça ne suffit pas. Alors, je me suis dit, ben voilà, saisissons à l'occasion cette adresse, et nous avons donc décidé d'organiser une table ronde plus générale sur l'état de nos institutions, avec un titre choc, où en sont nos institutions, et deux sous-titres choc, comment on a arrivé là, et comment peut-on en sortir. Et on a voulu faire appel. Alors, le critère principal a été de saisir, de solliciter des consulistes qui ne passaient pas toujours à l'individu. Voilà. Donc, c'est un critère très pertinent et très efficace qui a permis donc de réunir un panel, un double panel de personnes très qualifiées que nous avons la chance de pouvoir écouter aujourd'hui. Voilà. Donc on va donc organiser ça autour de deux panels. Je dirais je présiderai la première session et Denis Barranger, directeur de l'Institut Vidéo, que je remercie d'ailleurs pour avoir autorisé cette manifestation, présidera la seconde. Alors peut-être aussi une autre justification, parce que vous pouvez dire, tout ça c'est anecdotique, il nous raconte sa vie alors qu'on est censé parler de choses très sérieuses. La raison peut-être principale, c'est de voir à quel point cette nouvelle crise politique montre que les Français ont beaucoup de mal à saisir le caractère très insolite de la situation actuelle, la situation constitutionnelle et politique, et ce caractère inédit, insolite, se voit notamment dans les accusations extrêmement fortes qui ont été lancées contre l'idée, contre la nomination de M. Barnier et la non-nomination de Mme Castex. On a parlé de violation de la Constitution, on a parlé de coup d'État, on voudrait peut-être discuter de ces appréciations. Pour ma part, je trouve un peu exagéré, pour ne pas dire nettement exagéré, puisqu'on avait comment faire une situation inédite qui a été résolue ou bricolée plus ou moins, mais de là à parler de coup d'État, je pense qu'il y a un pas qu'on ne doit pas franchir. Je pense que ça fera partie des discussions que nous aurons tout cet après-midi. Et parmi les questions en préparant cette conférence, je me suis dit peut-être qu'il y avait quelques questions à adresser à nos intervenants en les laissant entièrement libres, soit d'y répondre, soit de ne pas y répondre. Il y en a au moins deux que je voulais ici proposer à tout le monde. C'est la lecture du long article de Pierre Avry dans le blog de Ius Poeticum, l'analyse structurale de la Ve République qui m'a fait penser à cette question. La première question, c'est, êtes-vous d'accord pour considérer que nous vivons l'agonie de la Ve République? Est-ce que la Ve République est vraiment à l'agonie avec cette séquence qui a commencé avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le président et par la nomination de M. Barnier? Peut-on parler d'une agonie de la Ve République? Et deuxième question qui est liée, Pierre Avry soutient cette thèse en disant que l'ADN de la Ve, le cœur de la Ve a été atteint. Le cœur de la Cinquième, ça serait que le peuple a le pouvoir du dernier mot et qu'il aurait, avec cet épisode, cette séquence récente, perdu ce pouvoir du dernier mot, ce qui fait qu'on pourrait parler effectivement d'une agonie de la Cinquième. J'ai déjà peut-être un peu trop parlé parce que j'étais censé vraiment introduire ce panel. Il y a quatre intervenants et l'ordre de passage sera extrêmement simple, ce sera l'ordre alphabétique pour ne vexer personne. Et on commencera donc par le professeur Julien Jeannonnet de l'Université de Strasbourg qui nous fera un topo liminaire de 5 minutes.
Merci Monsieur le Président, alors merci à tous, merci aux organisateurs, merci à Patrick aussi. Le constat d'une crise a été fait assez unanimement cet été. La question de la crise, évidemment, est une question assez large. Le concept de crise lui-même est un concept très vague. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels il me semble que nous pouvons tomber d'accord pour lancer la discussion. Tout d'abord, on peut considérer que l'on soit pour ou contre que la prétention présidentielle à l'omnipotence, telle qu'incarnée en tout cas par Emmanuel Macron pendant ces 7 premières années de ses 2 mandats, a fini par irriter un certain nombre de Français, à la suite peut-être d'autres présidents qui avaient déjà provoqué un sentiment comparable. Le fait que les éléments de langage ministériel finissent par tourner à vide, que globalement, quand on entend des ministres assez souvent, on a l'impression qu'ils sont fongibles, que quelqu'un d'autre pourrait prononcer la même chose, que les mêmes éléments de langage sont répétés d'une radio à une autre, d'une télévision à une autre, que les débats parlementaires sont devenus, en tout cas depuis 2022, une apparente foire d'empoigne, dans le cadre desquels eh bien, on ne peut pas considérer que le travail se montre, en tout cas, aux spectateurs de manière tout à fait positive. On n'a pas l'impression que les parlementaires font un travail très poussé, alors que certains le font évidemment, mais le comportement là-dessus des parlementaires LFI joue un rôle tout à fait néfaste depuis 2022, en tout cas, à leur volonté de créer une sorte de happening permanent dans la perspective de quelques vidéos sur les réseaux sociaux, évidemment affecte la possibilité même d'avoir un dialogue parlementaire de niveau correct. On peut noter aussi l'incapacité souvent fustigée des citoyens à peser sur la prise de décision collective, sur la formation de normes générales et impersonnelles entre deux élections, et à cet égard, on peut sans doute porter un regard critique sur les initiatives qui, sur le principe, pouvaient avoir de l'intérêt, les conventions citoyennes qui ont été organisées, qui ont été intéressantes et dont les résultats ont été promptement ignorés par la suite. Et donc ça, c'est aussi un élément, à mon avis, du tableau. Et enfin, on peut considérer que le vote même des Français est quelque peu déprécié. Alors ça, c'est une appréciation sur laquelle on pourra revenir évidemment, mais la question de savoir si entre le vote des Français lors des élections législatives avant l'été et le résultat au terme de la séquence que nous étudions aujourd'hui, c'est-à-dire la nomination du gouvernement Barnier, est-ce qu'il y a une sorte de lien, de prolongement, est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose? Est-ce que les Français ne peuvent pas considérer que parmi les quelques enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin dont les résultats sont évidemment assez difficiles à interpréter, on peut considérer quand même que le rejet du Rassemblement National a été au cœur de cela et que le peu de sympathie pour les partis soutenant Emmanuel Macron a aussi été quelque chose d'important. Alors, je le dis d'emblée, pas du tout défenseur de l'idée selon laquelle il y aurait une quelconque obligation constitutionnelle de nommer Mme Castet à Matignon. C'est évidemment, à mon avis, ce sont des fariboles dans la mesure où constitutionnellement, tant qu'on n'a pas de majorité absolue, il n'y a absolument aucun droit à exiger quoi que ce soit en la matière. Je pense néanmoins que l'impression a peut-être été éprouvée par les Français à la suite de la nomination de Michel Barnier que on avait un peu quand même repris les mêmes d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que dans le détail, certains des ministres sont restés, d'autres, des figures marquantes sans doute, ont disparu du gouvernement, mais la continuité frappe plus que la rupture, sans doute, à différents égards, en dépit de l'arrivée au gouvernement de certaines figures comme M. Retailleau, qui évidemment font parler d'eux et qui... Donc ça, c'est le paysage, si j'ose dire. Quelques réflexions très rapides, puisque 5 minutes, c'est court. 2 minutes, c'est court. Je considère que, premier élément, un élément, à mon avis, qui doit être lancé dans la discussion pour commencer, c'est l'évolution des pratiques parlementaires. Le fait que, sur le long cours, il y a quand même eu deux moments marquants en 2017 et en 2022 qui ont constitué des ruptures dans la manière dont les parlementaires... fonctionne. Alors on peut évoquer évidemment la polarisation politique de fond de notre pays, on peut évoquer le rôle des réseaux sociaux. Il faut quand même considérer, je pense, que la rupture de 2017 a avant tout été une rupture marquée par la perte d'expérience de parlementaires. Le renouvellement d'une très grande partie de l'Assemblée nationale en 2017 a eu un avantage, c'est le renouvellement. Un inconvénient majeur, c'est le fait que, comme cela s'accompagnait de la réforme du non-cumul, eh bien, l'Assemblée a perdu un certain nombre de grands barons locaux, ce que certains ont pu regretter, ou au contraire, certains ont pu s'en féliciter. Un constat objectif, quoi qu'on en pense, là où auparavant des parlementaires pouvaient aller à Bercy, discuter avec des hauts fonctionnaires de Bercy, et quand même avoir un poids tiré du fait qu'ils étaient maires d'une grande ville, ou qu'ils avaient une expérience ancienne de parlementaire, et que donc... ils avaient l'expérience qui leur permettait de ne pas se faire trop avoir par Bercy. En 2017, c'était très clair, la plupart des nouveaux députés macronistes sont arrivés face à des hauts fonctionnaires en disant « Écoutez, moi, j'y connais rien, faites ce que vous voulez, ça sera très bien, j'en suis sûr. » Ce qui, évidemment, pour un fonctionnaire de Bercy, est un délice. Par ailleurs, autre élément, l'état de... Très rapidement, puisqu'il me reste 30 secondes, l'état de la culture constitutionnelle et des responsables politiques. Je prendrai simplement quelques exemples pendant l'été. Le fait que les parlementaires du centre au sens large, c'est-à-dire Modem, le parti de Macron qui change tous les deux ans, donc je ne sais plus comment il s'appelle Ensemble, je crois maintenant, mais ça change assez régulièrement, le fait qu'ils aient, après avoir obtenu la réélection de Mme Braun-Pivet au perchoir, que le lendemain matin, la plupart de ses députés soient restés dormir, d'après ce que je comprends, et donc subi une défaite qui est quand même une défaite de débutant, à savoir ne pas obtenir un poids dans le bureau de l'Assemblée nationale, alors même que le bureau de l'Assemblée nationale est voué à tenir un rôle important dans les prochains mois, les prochaines années, c'était typiquement quelque chose qui me semblait la marque de l'absence d'expérience. Voilà. Et enfin, il faut finir, et donc j'évoquerai simplement du côté... Non, j'évoquerai rien du tout, il y a plein de questions, on se parlera ensemble plus tard, avec grand plaisir. Ouais.
Merci. Désolé, hein, ce n'est pas très facile, et en plus, j'ai Patrick Bell qui me drive très bien. Voilà. Alors, vous avez compris que le plan n'était pas du tout chronologique, puisque la question, c'est comment en étant arrivé là, donc on n'a pas du tout un plan chronologique. On va continuer avec Elina Lemaire, qui est professeure de droit public à l'Université de Bourgogne, et qui va nous parler, je crois, de l'irresponsabilité du président, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, cher Olivier. Merci aux organisateurs de cette manifestation. Et donc, effectivement, je vais parler de l'irresponsabilité du président de la République. Lorsque Olivier Beau m'a écrit pour me parler de cet après-midi, je lui ai dit que ça pourrait être intéressant d'évoquer cette question. Pourquoi ? Parce que, à mes yeux, c'est l'une des failles, si ce n'est la faille majeure du fonctionnement de nos institutions dans leur phase, en tout cas, post-gaullienne. Alors, simplement un petit rappel pour notre jeune public, la responsabilité politique désigne le fait que le détenteur d'un pouvoir politique doit rendre compte de l'exercice de ce pouvoir. Tant qu'il a la confiance de l'organe devant lequel il est responsable, il peut se maintenir au pouvoir, mais dès lors qu'il perd cette confiance, il est contraint de quitter le pouvoir. Denis Barranger explique très bien dans sa thèse que dans les régimes qui sont démolibéraux, le pouvoir mène en principe à la responsabilité comme la responsabilité mène au pouvoir. Notre 5e République, vous le savez, appartient à la catégorie des régimes parlementaires, et dans ce type de régime, le chef de l'État est en principe irresponsable. Alors ça ne pose pas de difficulté par rapport à ce que je viens de dire il y a un instant, dans la mesure où, dans les régimes parlementaires qui fonctionnent de façon classique, le chef de l'État n'a que des prérogatives de second rang, général, purement symbolique ou protocolaire. La difficulté avec la 5e République, c'est qu'on a repris ce principe de l'irresponsabilité du chef de l'État, mais on l'a transposé dans un cadre institutionnel qui est tout à fait différent, puisque, comme vous le savez, le président de la République dispose de prérogatives qui sont nombreuses et tendues, et de plus, il est l'autorité qui, à titre principal, est chargée de définir la politique nationale. Or, si on lit notre article 67, l'article 67 de notre Constitution, on s'aperçoit que le président de la République n'est pas responsable des actes qu'il prend en cette qualité, en qualité de président de la République, sauf que quelques exceptions qui seront notamment évoquées tout à l'heure par Cécile Barre. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'un président de la République, même s'il est mal élu, n'a de compte à rendre à personne. Alors, on sait bien que certains de ces actes, certaines de ces décisions sont contresignées, mais vous savez également que dans la Constitution de 1958, il est prévu que certains actes du président de la République ne soient pas contresignés. Pour parler de choses dont il va être question aujourd'hui, on peut notamment citer la décision de dissoudre l'Assemblée nationale ou encore la nomination du Premier ministre. Et donc là, personne n'endosse la responsabilité de l'acte, puisque le principe du contresign, vous le savez, c'est que les ministres qui contresignent les actes présidentiels assument la responsabilité de ces décisions. Cette situation existait déjà dans la première décennie d'application de la Constitution, c'est-à-dire que le président de la République était déjà irresponsable et il y avait déjà une tendance à l'hégémonie du président qui était souhaité par le général de Gaulle. Il a été le premier président de la 5e République et il a appliqué la Constitution dans le sens de l'hégémonie présidentielle, sauf que la différence entre de Gaulle et ses successeurs, c'est que le général de Gaulle avait pris pour habitude de mettre en jeu, d'engager sa responsabilité devant le peuple en utilisant des mécanismes dans la Constitution qui n'étaient pas vraiment prévus pour ça. Je songe notamment, bien sûr, chacun le sait, au référendum qu'il a utilisé à 4 reprises, à la dissolution qu'il a utilisé à 2 reprises. Donc, s'agissant du référendum, cette technique lui permettait de tester la popularité des réformes qu'il souhaitait entreprendre et de tester donc sa légitimité à se maintenir au pouvoir et à prendre les décisions qu'il souhaitait prendre. D'ailleurs, c'est à la suite du référendum de 1969, vous le savez, que le président de Gaulle a démissionné puisqu'il avait perdu son pari en quelque sorte et donc il a fait jouer sa responsabilité politique. Alors, il ne vous a pas échappé que ça n'est pas la voie qui a été choisie par Emmanuel Macron en 2024. Dissolution ratée, donc il se maintient au pouvoir. C'est d'ailleurs été le cas aussi de Jacques Chirac en 1997. Quant au référendum, ils ne sont plus utilisés, autrement que comme des arguments électoraux. Le dernier en date, c'était celui de 2005. Et alors que le président Chirac s'était engagé en faveur du oui du traité portant constitution pour l'Europe, le non français ne l'a pas conduit à démissionner. Et pour finir, je voudrais dire que cette situation nous conduit à quoi ? Elle nous conduit à ce qu'il y ait un découplage qui me semble tout à fait étrange et surtout très dangereux entre pouvoir et responsabilité sous la Ve République. Et c'est d'autant plus dangereux que nous sommes confrontés à des crises qui sont récurrentes, qui sont des crises systémiques, on l'a vu récemment avec le Covid, qui... ces crises conduisent à une concentration du pouvoir, à un affaiblissement des contre-pouvoirs, et tout ça toujours sans responsabilité.
Merci beaucoup. C'était parfait, je n'ai même pas pu le rappeler alors. Le timing, c'était remarquable, très clair d'ailleurs. Donc je donne tout de suite la parole à Nicolas Rousselier, qui n'est pas juriste, mais qui est quand même peut considéré comme co-socialiste et qui est professeur à Sciences Po Paris.
Oui, merci cher Olivier Beau, merci pour cette invitation. Alors, j'abrève les remerciements pour aller droit au but, comme on dit dans une bonne ville. Donc, ce qui frappe le plus l'historien, je fais exprès de vous prendre à contre-pied, ce qui frappe le plus l'historien dans la crise actuelle et qui remonte à quelques années, c'est on peut vraiment dire un événement qui n'est pas constitutionnel, qui n'est pas prévu dans la Constitution, qui échappe à la Constitution, mais qui probablement amène à la transformer. Cet événement, je ne dis rien d'original, c'est la crise des partis politiques. C'est pas original de dire ça, mais je trouve qu'on ne le dit quand même pas assez. Je trouve que depuis, évidemment, 2016-2017, et même ça avait commencé avant, on a une crise des grands partis, j'allais dire... avec lesquels on avait grandi nous-mêmes, qui pouvaient être éventuellement nos repères, comme simples citoyens, comme électeurs. Le chiffre obtenu maintenant par le parti néo-gaulliste, je serai très pudique sur le rappel exact des chiffres pour ne pas vexer ces partis. Donc le chiffre du parti néo-gaulliste est très faible. Le chiffre, surtout à la présidentielle, du parti socialiste est... Plus que faible. Donc moi, je suis encore, si vous voulez, un peu dans la sidération de voir cette disparition des grands partis. Ça avait été précédé par le déclin du parti communiste. La deuxième surprise, parce que ça a commencé en 2017, c'est le fait même du macronisme. La deuxième surprise, c'est que sur ce paysage de ruines qui existe en 2017, il y a une espèce de guerre de mouvements qui se fait à travers le macronisme, mais depuis 2017, on ne voit pas grand-chose apparaître. On ne voit pas grand-chose repousser, se reconstruire à partir des ruines des partis traditionnels. Alors je sais bien que nos collègues politologues parlent de mouvement personnel pour désigner aussi bien le macronisme que le mélenchonisme, mais ça ne fait pas l'affaire, c'est-à-dire ça ne remplace pas le rôle des partis politiques dans la structuration d'une vie politique, la structuration d'une socialisation, et puis surtout, j'y viens, la structuration de l'électorat et donc du résultat d'une élection. Donc à partir de la crise des partis, il me semble que l'événement qui en est la conséquence, c'est 2024, ça avait déjà commencé un petit peu à 2022, puisqu'en 2022, on avait eu une dissociation des résultats entre la présidentielle et la législative. La législative n'avait pas donné une majorité absolue au président, mais disons qu'à un cas, il y avait eu quand même une espèce de gouvernement à la fois présidentiel, un peu reparlementarisé, et qui avait pu faire une sorte de cabotage de port en port de discussion de loi en discussion de loi pendant la période. Donc Madame Borde et Gabriel Attal. Donc ça, c'est fini en 2024. Et là, vous avez aussi un autre événement qui est la conséquence du premier, c'est que la crise des partis rend illisible le résultat électoral. Donc là aussi, moi, ça me fera beaucoup comme historien. La Ve République nous avait habitués à donner un verdict largement artificiel, parce qu'il y a une augmentation du nombre de sièges par rapport au nombre de voix, tout ce qu'on veut. Mais il y avait cette faculté de la Ve République à délivrer, pour faire un anglicisme, à délivrer un résultat clair. Alors bien sûr, la présidentielle, ce n'est pas difficile, il y a toujours un gagnant à la fin. Et ça a été le cas en 2024. Mais il y avait une satellisation de la législative pour que la législative confirme l'élection présidentielle. Donne une majorité, pour parler clair, donne un fait majoritaire au président. Donc, voilà. Donc ça, c'est fini. Ça me semble fini. Est-ce que c'est fini définitivement ? Ça, c'est la question. C'est une question qui relève non pas des constitutionnalistes seulement, mais beaucoup aussi d'une sociologie électorale, d'une analyse, j'allais dire, aussi sur le terrain de ce que font les électeurs, de comment ils se situent par rapport à la politique, par rapport aux identités partisanes. Le sentiment qu'on peut avoir à l'heure présente, et la crise donc va continuer, le sentiment qu'on peut avoir à l'heure présente, c'est qu'on n'est pas prêt de revoir le fait majoritaire, à mon avis. Pas pour des raisons constitutionnelles. Au fond, la Constitution, techniquement, comme instrumentalement, elle peut continuer à bien fonctionner. Mais le ressort, alors je fais une blague, hein, le ressort de la Constitution, la cinquième, c'était le régime des partis, contre lequel la Constitution avait été soi-disant conçue. Mais en fait, ce régime des partis, c'est-à-dire cette capacité des partis à organiser l'élection, à avoir un vaincu et un vainqueur, c'est terminé, et je pense que c'est terminé pour longtemps.
Merci beaucoup. Effectivement, on peut aussi difficilement comprendre le droit constitutionnel si on ne fait pas un peu de sciences politiques, ou d'histoire politique, et je pense que la démonstration vient d'en être assénée par Nicolas Rousselier. Je passe maintenant la parole à notre dernier intervenant de cette première propos de lumière, qui est Patrick Veil, qui est directeur émérite au CNRS, et qui est à l'origine directe de cette journée.
Merci beaucoup, Olivier. Alors, je vais directement au point. Alors, faisons aussi l'histoire.
Très bien.
Et remettons-nous, pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux plus jeunes dans la salle qui ne l'ont pas vécu, au début du millénaire, début de l'année 2000. Nous sommes en cohabitation depuis 2 ans et demi, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, qui, élu pour un mandat de 7 ans, de toute façon, devait faire face à une élection législative au milieu de son mandat, et il choisit d'anticiper cette élection en faisant une dissolution en 97. Il perd l'élection, et Lionel Jospin devient Premier ministre à la tête d'une gauche, une coalition de gauche plurielle. Et je ne sais pas le souvenir que vous en avez, mais c'est un souvenir assez agréable de fonctionnement des institutions, avec un gouvernement assez collectif, avec du partage des responsabilités, une assemblée qui fait son travail, un président de la République qui n'est pas absent, qui doit collaborer avec le gouvernement, et à cette expérience qui, je crois, faisait plaisir aux Français, c'est Lionel Jospin lui-même qui décide d'y mettre un terme en organisant un référendum sous la suggestion de quelques constitutionnalistes dont je ne dirai le nom, pour instaurer le quinquennat qui lui permettrait probablement à lui, s'il était élu président de la République, d'éviter ce moment terrible qui est le risque de la perte de la responsabilité, puisque le président de la République, soumis avec sa majorité au suffrage des Français, risquait de la perte. Et il y ajoute l'inversion des élections parlementaires et présidentielles. Et là, il se produit, dans les 2 premiers quinquennats, ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire la confusion des majorités parlementaires et présidentielles, avec un résultat sur lequel j'avais écrit en 2000, c'est-à-dire que cette confusion allait transformer complètement les rôles du président de la République et du Premier ministre, puisque le président de la République devenait le chef des députés, se trouvait en situation d'être réélu s'il devait l'être, ils ne l'ont pas été les 2 premiers, avec leur propre majorité parlementaire, et ça élevait d'ailleurs le Premier ministre à un rôle de penseur d'avenir, puisqu'il n'était plus soumis lui-même à la responsabilité des élections, et il se projetait dans un avenir qui le faisait voir après celui de son patron, président de la République. Alors, ce système avait un inconvénient que Bruce Ackerman, dans son livre We the People, au nom du peuple, m'avait aidé à voir, c'est que nous avons avec les États-Unis quelque chose de commun, c'est que chez nous, l'idée de révolution est populaire. Et donc, il arrive dans notre histoire que le peuple ait envie de tout balancer, et quand il balance tout, ben, si on lui donne l'opportunité de prendre tous les pouvoirs, il le donne à une seule personne. Et c'est ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron en 2017, qui a effectivement, avec un parti qui portait ses initiales, il faut quand même le rappeler, En Marche, pris tous les pouvoirs. Au nom d'une sorte d'extrême centre, d'une technocratie d'État qui devait avant se former à la politique, soit à droite et à gauche, et tout d'un coup pouvait se retrouver ensemble dans l'en même temps, qui était en même temps leur formation commune à Sciences Po Paris, où on apprend à faire des plans de ce type. Bon, donc, voilà. Le résultat, avec la concentration du pouvoir qu'il en ait découlé dans les mains d'un président dont la personnalité commence à être évoquée en des termes parfois psychologiques, je crois qu'il faut rendre justice au peuple d'avoir réagi avec les moyens qu'il a pu. Et je vais essayer de m'expliquer, parce que j'ai plus de 2 minutes, je suppose. C'est que, quand il s'est agi de revoter, en 2022, le choix était entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils ont choisi de dire non à Marine Le Pen. Mais à l'élection législative, et là c'était une totale nouveauté, c'était l'inverse du plan originel du quinquennat, ils ont dit non à une majorité Emmanuel Macron. Et c'était le début de la dislocation du nouveau régime qui avait été mis en place en 2000. Et puis Emmanuel Macron a refait une solution en espérant, et ça j'en ai des témoignages, en espérant avoir une majorité. Et là, il y a eu deux fois non de nouveau. Non à Macron pouvant avoir une majorité après les résultats du premier tour. Et puis non à Marine Le Pen quand il s'est agi de faire le Front républicain. Donc je dirais qu'avec les moyens à la disposition des électeurs, c'est-à-dire que les électeurs, ils votent avec ce que là, le système des partis tel qu'il est, le régime électoral tel qu'il est, ils ont fait des choix assez, pour moi, assez rationnels. Mais plusieurs noms de successifs ne définissent plus le nouveau régime politique. Et je dirais que le message implicite, et c'est pour ça que j'ai encouragé le message implicite collectif, c'est il faut que vous réformiez tout ça. Et ça va plus. Le système du quinquennat qui a été mis en place ne marche pas. Donc les constitutionnalistes, c'est pas vous qui avaient eu l'idée de ce quinquennat, mais maintenant il serait peut-être temps qu'on aide les Français et les dirigeants politiques à repenser par des propositions de réforme, et ça sera l'objet de la deuxième partie, comment on peut sortir de là.
Merci beaucoup. Heureusement, c'est le deuxième panel qui va s'occuper de l'histoire. Je n'ai qu'à faire de l'histoire constitutionnelle, c'est assez facile, n'est-ce pas? Bien, merci à tous.
Allez, j'ai oublié un point. J'ai juste une minute, je pense que j'ai encore une minute.
Non, mais c'est très rusé de ta part.
J'ai oublié la réforme du cumul des mandats, encore initiée par la gauche, qui a réduit toute possibilité d'avoir des contre-pouvoirs de personnalité des maires, des députés, des sénateurs-maires dans les assemblées. C'est venu de la gauche, et le point que je voudrais rajouter, c'est que la gauche a fait preuve, en matière constitutionnelle, d'une violation de toutes ses valeurs, c'est-à-dire le partage du pouvoir, etc. Elle a participé à l'augmentation de la concentration du pouvoir, et c'est Sarkozy qui a fait une réforme dans la Constitution qui a un peu redonné des pouvoirs aux minorités parlementaires. Je voulais quand même ici y aller, parce qu'on ne peut pas imaginer, en tout cas aujourd'hui, que c'est de la gauche, que peuvent venir les idées de réforme, parce qu'on a vu ce que ça donnait.
Bien. Je rappelle que nous avons signé ensemble, effectivement,
avec
Pierre Avril contre cette réforme. Évidemment, notre tribune n'a aucun écho, ils ont été battus, lamentablement. Voilà. Mais bon, c'est au moins battu pour cette idée, de même qu'on aurait dû écrire contre le quinquennat, je pense, pour ma part. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'on va peut-être passer à l'épisode, si je veux dire, de la discussion entre nous. Peut-être, la première idée, c'est peut-être que ceux qui le demandent réagissent aux interventions de leurs collègues, s'ils ont des choses à ajouter ou à compléter, ou éventuellement à contester. Puis après, on peut peut-être poser d'autres questions, revenir aux questions initiales que j'ai posées. Donc, est-ce que Alina Le Maire.
Merci. Je veux bien poser une question à Nicolas Rousselier. Vous avez dit qu'il y avait une crise des partis. Est-ce qu'on peut pas un peu préciser en disant que c'est une crise des partis modérés en réalité, parce que à l'Assemblée nationale, on a effectivement les trois blocs. Je suis assez d'accord avec vous pour dire qu'on est en train de revoir renaître le fait majoritaire, parce qu'on a ces blocs irréconciliables des extrêmes, mais eux se portent plutôt bien, en tout cas les deux partis extrêmes. Donc est-ce que ce ne sont pas les partis de gouvernement traditionnels qui sont en crise, davantage que les partis en général?
Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai. En même temps, je pense que la notion de bloc qu'on utilise beaucoup là depuis les dernières élections est une fausse expression, une fausse idée. Enfin, je trouve que le spectacle quotidien nous montre qu'on n'a pas affaire à des blocs. Aussi bien le bloc central, il est même presque difficile à définir. On ne retient pas trop le nom du parti macroniste puisqu'il change... Comme certains changent de iPhone. J'ai même pas le compte de combien il y a eu de fois de noms différents depuis le En Marche.
En Marche,
En Marche,
pour la République,
En Marche.
Ensemble,
Renaissance, Ensemble pour la République, EPR.
Voilà, EPR, qui n'est pas très bien choisi comme nom.
Flamandine.
Ça peut se terminer mal, un EPR. Oui, donc bloc central, ça me semble évident que c'est pas un bloc. NFP, c'est un intergroupe, c'est pas un groupe. On voit toutes les difficultés qu'ils ont à s'unir. Alors c'est vrai qu'il y a dans le paysage de ruines, et là, Elena, vous avez raison entièrement. Il y a une force politique qui est homogène, enfin en tout cas réussit à paraître l'être. La stratégie de la cravate, une forme aussi par rapport à ce que disait Julien Jeannet dans l'hémicycle, hein, un comportement qui fait de plus en plus contraste avec le comportement des autres. Alors oui, mais il me semble que la fonction de socialisation politique est perdue, c'est-à-dire ce qu'on a perdu dans la perte des partis politiques, c'est ça. Et donc ça transparaît dans les élections, dans le comportement électoral. Quand on fait simplement des petits sondages sur tel ou tel, moi j'aime bien faire regarder ce qui se passe dans certains villages que je connais dans ma petite patrie, et je vois, et c'est absolument incroyable selon les élections, le caractère labile, le caractère complètement irrégulier. Voilà. Donc je parle là d'une petite bourgade en pleine Lozère qui, selon que ce soit les européennes, alors ils peuvent pas mal voter, enfin ils se divisent. Si c'est les régionales, ils votent en grande partie Delga. Voilà, je pense surtout par son image personnelle, parce que c'est pas du tout un lieu de tradition socialiste, ça se saurait. La Lozère. Donc c'est extrêmement frappant. Et puis il y a des sociologues qui ont travaillé. Je faisais un débat l'autre jour avec Vincent Tibéry, par exemple, qui travaille à Bordeaux. Et lui, il a vraiment documenté le fait que maintenant le rapport à la politique a beaucoup changé parce que il a une bonne formule. Il dit, de plus en plus de gens disent la politique ce sera sans eux. Ça veut dire on ne fait pas la politique par le haut, mais on va faire de la politique locale, associative, prendre les choses en main, pour l'écologie, ceci, cela, dans les territoires. Voilà. Le problème, c'est que ça reste pour tous les gens qui n'ont pas de territoire, comme moi, c'est, quand on n'est pas ancré dans un territoire, c'est plus problématique. Non, donc, moi, je milite, c'est pas absolument décisif, je milite pour qu'on arrête de parler de blocs et qu'en fait la pulvérisation est beaucoup plus avancée que ce que le discours journalistique sur les trois blocs peut le laisser entendre.
Merci. Elina, est-ce que vous voulez droite ou pas de droite? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole?
Pardon.
Oui, bien sûr. Oui, nous sommes ouverts. Nous sommes très ouverts dans ce second panel. Nous offrons la parole au second panel.
C'est gentil, on vous prendra la parole. Non, mais c'était à propos de ces discussions sur les partis politiques. Moi, je ne suis pas persuadé que la crise soit réservée aux partis traditionnels du centre. Il me semble que. Bon, il y a un phénomène de crise du militantisme en général, mais il me semble qu'il y a une transformation effectivement assez récente de la structuration des partis autour de nos personnalités.
C'est ça.
Et ça, c'est ça qui a vraiment changé. Et pour le coup, ça touche là tous les camps. Il y a le parti d'Emmanuel Macron, le parti de Marine Le Pen, le parti de Jean-Luc Mélenchon, et qui sont donc. Alors, je me permets de le dire pour anticiper sur notre discussion, enfin, il me semble que c'est un phénomène, disons, assez français et très lié à la présidentielle.
Bien sûr.
Oui, évidemment, puisque l'idée, c'est que les partis s'organisent, se mettent en grande marche pour aller conquérir la présence d'un public.
Peut-être un tempérament, quand même, sur la longue durée, en tout cas de la 5e République. C'est quand même pas complètement nouveau. Les partis gaullistes étaient quand même les partis de Gaulle. Le PS, dans les années 80, était quand même le parti Mitterrand de manière très claire. Ensuite, il y a eu d'autres figures, évidemment.
C'était des partis avec des courants.
De Gaulle, ils sont morts. Vous n'avez pas peur de faire un congrès là, aujourd'hui, ils ont tous peur de faire un congrès.
En plus, nous sommes écoutés, nous sommes entendus, nous sommes visionnés. Il faut essayer donc Patrick Vey et ensuite Nicolas Rousseau.
Non, mais le Parti Socialiste des années 70-80, c'est un parti qui faisait un travail intellectuel, qui travaillait sur des programmes. C'est inimaginable de ne pas avoir un programme, des débats, des conventions thématiques. Là, c'est normalement une sorte de vide. Bon, donc,
c'est ça qui a peut-être changé d'ailleurs, c'est que les partis ne sont plus les creusets des programmes, des idées. Il y avait eu une. Alors, on a beaucoup brocardé, Ségolène Royal avait essayé un temps de refaire cela en faisant une espèce de forme participative, en partant du bas, etc. Mais peut-être qu'elle avait effectivement pris conscience de ça, qu'il n'y avait plus d'idées. Bon, c'est pas par ailleurs quelqu'un d'absolument extraordinaire sur le plan politique, mais c'est vrai que je pense que la prise de conscience, il y avait une prise de conscience que les partis n'étaient plus à l'origine véritablement des programmes et des mouvements politiques.
Oui, mais alors pour poser la question à Elina, peut-être, sur la question de
je vais tout à fait dans ce sens-là. Il y a un mot-clé, c'est le travail. On peut le dire pour le Parlement, on peut le dire pour un parti, le travail politique. Et effectivement, la crise des partis, c'est ce que je disais sur la pulvérisation et le caractère illisible que peut avoir maintenant une élection. Et puis, c'est le fait que le programme est passé du parti à la campagne. C'est-à-dire que maintenant, le peu qui reste d'un programme est largement fabriqué au fur et à mesure de la campagne en fonction du buzz. En fait, on mesure les thèmes de la campagne et c'est comme ça qu'on intervient. Ça se fait depuis assez longtemps aux États-Unis, quelque chose comme ça. Puisque depuis longtemps, aux États-Unis, les présidents, les candidats sont assez à distance des partis. Mais c'est vrai, Patrick Vey le rappelait, le Parti Socialiste, à une époque, c'était des congrès homériques, dont certains sont restés célèbres, avec vraiment des gladiateurs vainqueurs, des gladiateurs battus. Tandis qu'aujourd'hui, les partis ont même peur de faire un congrès. C'est le cas du PS, si j'ai bien compris, de ce qui se passe actuellement. Donc de se réunir et d'avoir peut-être des votes et des choses comme ça.
Bien, merci. Une question.
Oui, sur la responsabilité, parce que j'entends quand même, là, je ne suis pas spécialiste de ces études qui sont faites par des politistes ou des sociologues sur l'impact du référendum qui est voté non au traité européen et dont les gens ont le sentiment qu'on n'a pas respecté leur vote. C'est énorme. Je pense que ça, c'est énorme. On ne se rend absolument pas compte. Et ça contribue à la poussée des partis, je dirais, radicaux, qui veulent remettre en cause toutes les institutions, parce que leur parole, leur vote n'a pas été. Ils ont le sentiment que leur vote n'a pas été accepté. Et donc là, il y a quelque chose de très important.
Avec une manœuvre qui est contenue.
Exactement. Donc là, il y a quelque chose comme une responsabilité des partis, si on peut dire les partis de gouvernement, j'aime pas du tout ce terme, mais aussi bien le PS que la droite, qui finalement, quelque part, aujourd'hui, ont vu leur assise se rétrécir. Mais ils ont eux-mêmes organisé la ratification du traité de l'Union européenne, malgré le vote négatif des Français. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme. Là aussi, je crois que le vote n'est pas si totalement irrationnel. Il y a une certaine rationalité de l'électorat. Bon, qui n'est peut-être pas celle qu'on a envie de voir, mais qui peut-être existe.
Très rapidement sur l'absence de programme, ce qui est frappant, c'est que ça touche tous les partis. Emmanuel Macron, président en exercice, candidat à sa réélection, n'a pas de programme. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est 10 jours avant la campagne, on ne sait pas quelle est la base de la campagne d'Emmanuel Macron. Ça vaut évidemment pour Bardella. Bardella, il est frappant de constater que chez les jeunes. Chez les étudiants que j'ai à l'université de Strasbourg, je pose des questions un peu sans demander ce qu'ils votent, en sentant un peu les choses. Bardella, j'ai vu des images, Bardella allant sur le marché de Noël de Strasbourg, et c'est avec une queue d'un kilomètre pour faire des selfies. En réalité, ça n'a plus rien de politique. C'est-à-dire que l'on vote Bardella aux européennes, tout simplement parce qu'il est mignon et que c'est sympa. Et que
parce qu'on a vu le marché.
Parce qu'on a vu, ou parce qu'on a pu faire un selfie avec lui. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, en effet, il y a une dévitalisation totale programmatique des partis qui explique aussi le caractère labile des votes. C'est-à-dire qu'en effet, même sentiment en Corrèze où j'ai regardé ça, ça passe de. On peut aux européennes avoir un village dans lequel le RN est très haut, et puis ensuite aux législatives, il y a Hauteland, le même village, dans le même continent. Donc, ouais.
Alors, il y a
oui, non, mais vous avez complètement raison. Déjà, on a observé le même phénomène 10 ans plus tard en Grèce, qui est un pays que je connais bien, où le gouvernement de l'époque, c'était celui de Mathieu Tsipras, avait organisé un référendum pour que les Grecs puissent se prononcer sur les politiques d'austérité qu'ils avaient massivement rejetées, et puis finalement, elles leur ont été appliquées quand même, malgré tout. Donc on a quand même cette impression qu'on donne la parole au peuple, mais sans l'écouter derrière. Alors ça s'est produit en 2005, en 2015 en Grèce, et puis on a vraiment l'impression que ça s'est reproduit là, puisque on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est vrai que quand on écoute les commentateurs des résultats des élections législatives de l'été dernier, et puis surtout des partis, des représentants des différents partis, personne n'a perdu, tout le monde a gagné en réalité, c'est un peu ce qu'on dit. Mais enfin, ce qui me semble à peu près certain, et vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est que y a sur un point au moins le vote est clair, c'est que les électeurs ont voulu sanctionner la politique présidentielle. Et ça me semble à peu près évident. Et le résultat de cette élection, c'est quoi? C'est qu'on retrouve au gouvernement, puis on parlait tout à l'heure Julien, il y a 39 ministres, je crois, oui. Dont 19 qui appartiennent au camp de M. Macron et de ses alliés, qui donc vient d'être sanctionné. Donc effectivement, ça pose de gros problèmes démocratiques.
Alors, ça permet peut-être aussi de rappeler, donc, c'est en fait un peu le diagnostic de Pierre Harvé. Il dit que le bouleversement, oui, c'est un bouleversement qui résulte de la dernière séquence, c'est que le peuple, justement, a perdu le pouvoir du dernier mot. Mais en réalité, si on vous suit, et je pense que vous suivez, c'est que ça fait longtemps qu'il a perdu le pouvoir du dernier mot. C'est ça le vrai problème. Donc il y a effectivement un découragement des électeurs qui votent de façon assez rationnelle, comme l'a dit. Patrick Veil, c'est-à-dire qu'il y a une censure du peuple. Et ça rend la chose encore plus compliquée.
Mais ça remet en cause, parce qu'il faut quand même parler de Gaulle, puisque c'est lui qui a quand même été à l'origine. On n'en parle pas, je veux dire. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, comme souvent on rédige les constitutions en fonction de sa propre expérience. Des ratages des précédents régimes, et donc, ayant vu le ratage de 40, et le fait que le président de la République ne pouvait prendre aucune décision, etc., mais notamment pas celle de partir à Alger qu'il aurait fallu, il a voulu construire des institutions dans lesquelles l'homme de valeur puisse diriger et décider avec des décisions qui soient suivies des faits. Bon. Et alors, je rappelle ce que disait Spinoza, un État dont le salut dépend de la loyauté de quelques personnes, dont les affaires pour être bien dirigées existent que ceux qui les mènent veuillent agir loyalement, n'a aucune stabilité. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que si il faut que la personne soit bonne de valeur pour que ça tienne, ben voilà, ça ne tient pas. Et au contraire, il faut construire des institutions dans lesquelles le fou, ou le déséquilibré, ou le corrompu, malgré tout, ça ne s'effondre pas. Même s'il est là ou si elle est là. Et c'est l'inverse qu'on a essayé de faire.
Si tu permets, Patrick, je fais une citation pour citation, je préfère celle de Max Weber. Le charisme, c'est la forme de politique du génie. Le problème, c'est que le génie est rare en politique. Donc, il avait bien compris, puisqu'il parlait de Weimar, le danger d'un présidentialiste, c'est qu'on a un président charismatique au début, mais après, on a des présidents qui n'ont peut-être pas le génie du fondateur. Donc, effectivement, le verre était dans le fruit, peut-être dès l'origine, mais surtout, on reviendra. Viendra cet après-midi, puisque à ce charisme personnel, on a voulu substituer un charisme entre guillemets institutionnel, qui est une sorte d'oxymore, avec l'élection du président à public au suffrage universel, mais je ne veux pas anticiper sur ce qui sera dit tout à l'heure. Mais effectivement, le problème. Enfin, pour revenir à. Pierre Harvé dit que la cinquième de son cœur, c'est le pouvoir du dernier mot. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, le cœur de la cinquième, c'est la fameuse formule de Michel Debré, il faut enfin donner un gouvernement à la France. Mmh. Et donc la question, c'est de savoir qui va diriger ce gouvernement, est-ce que c'est le Premier ministre ou est-ce que c'est le président de la République. Le compromis de la cinquième, c'est qu'on, dans le texte, évidemment, on ne tranche pas. Les deux interprétations sont possibles, et c'est la pratique qui va à chaque fois trancher en faveur du leader de ce gouvernement, est-ce que c'est le président ou est-ce que c'est le Premier ministre. Et comme tu l'as très bien rappelé, en période de cohabitation, c'est effectivement le Premier ministre. Donc ça te permet de poser une question à Patrick Veil. Donc si je te comprends bien, pour toi la cohabitation, c'était ce qu'il y avait de mieux, c'est ce qu'il y a eu de mieux sur la cinquième.
Ça marchait bien, et franchement, moi j'ai eu des échos que c'était vous. En fait, il y avait aussi une question, comment dire, de. En fait, ça ennuyait Jospin de devoir négocier avec Chirac, etc. Donc il allait. Mais c'est ce que font, c'est ce que fait le président des États-Unis quand il doit travailler avec un speaker de la Chambre. Et bon, c'est comme ça. Et franchement, je sais pas. Bon, on n'est pas nombreux dans la salle à avoir vécu. Enfin, ceux qui sont à la table, oui. Mais c'était agréable, c'était pas désagréable du tout comme période. C'était, on était assez contents qu'il y ait un gouvernement de gauche et un président qui rééquilibre un peu, etc. Ça marchait. Ça marchait.
Enfin, alors, il y avait quand même le spectacle un peu curieux pour les grandes conférences internationales européennes de voir deux représentants de l'État. Et il y a quand même des couacs. C'est pour ça que Carcassonne voulait le quinquennat, notamment la fin de la cohabitation, parce qu'il estimait qu'il y avait une sorte d'enchevêtrement des responsabilités. On ne pouvait pas avoir une diarchie au sommet de l'État. C'est quand même une objection assez forte.
Oui, surtout, il n'y avait plus d'alternance possible, puisque vous aviez les deux aller plus véritablement. Donc, on disait aussi beaucoup que c'était un mal de mouvance pour l'extrême droite.
Moi, je crois que ce qui animait Carcassonne.